Chapitre 2. La lettre des Lorrains vint au milieu d'une méditation inspirée par ce bel avenir. Les Merciers connaissaient à peine leur cousine, Pierrette Lorrain. L'affaire de la succession aux frais, traitée depuis longtemps par le vieil aubergiste, avait eu lieu pendant leur établissement, et Rogron causait très peu sur ses capitaux. Envoyés de bonne heure à Paris, le frère et la sœur se souvenaient à peine de leur tante, Lorrain. Une heure de discussion généalogique leur fut nécessaire pour se remémorer leur tante, fille du second lit de leur grand-père Auffray, sœur consanguine de leur mère. Ils retrouvèrent la mère de Madame Lorrain dans Madame Néraud, morte de chagrin. Ils jugèrent alors que le second mariage de leur grand-père avait été pour eux une chose funeste. Son résultat était le partage de la succession aux frais entre les deux lits. Ils avaient d'ailleurs entendu quelques récriminations de leur père, toujours un peu goguenard et aubergiste. Et les deux merciers examinèrent la lettre des Lorrains à travers ses souvenirs peu favorables à la cause de Pierrette. Se charger d'une orpheline, d'une fille, d'une cousine qui, malgré tout, serait leur héritière au cas où ni l'un ni l'autre ne se marierait, il y avait là matière à discussion. La question fut étudiée sous toutes ses faces. D'abord, ils n'avaient jamais vu Pierrette. Puis ce serait à l'ennui que d'avoir une jeune fille à garder. Ne prendrait-il pas des obligations avec elle? Il serait impossible de la renvoyer si elle ne leur convenait pas. Enfin, ne faudrait-il pas la marier? Et si Rogron trouvait chaussure à son pied parmi les héritières de Provins, ne valait-il pas mieux réserver toute leur fortune pour ses enfants? Selon Sylvie, une chaussure au pied de son frère était une fille bête, riche et laide, qui se laisserait gouverner par elle. Les deux marchands se décidèrent à refuser, et Sylvie se chargea de la réponse. Le courant des affaires fut assez considérable pour retarder cette lettre, qui me semblait pas urgente et à laquelle la vieille fille ne pensa plus dès que leur première demoiselle consentit à traiter du fond de la sœur de famille. Sylvie Rogron et son frère partirent pour Provins 4 ans avant le jour où la venue de Brigaut allait jeter tant d'intérêt dans la vie de Pierrette. Mais les œuvres de ces deux personnes en province exigent une explication aussi nécessaire que celle sur leur existence à Paris, car Provins ne devait pas moins être funeste à Pierrette que les antécédents commerciaux de ses cousins. Quand le petit négociant venu de province à Paris retourne de Paris en province, il y rapporte toujours quelques idées. Puis il les perd dans les habitudes de la vie de province, où il s'enfonce et où ses velléités de rénovation s'abîment. De là, ces petits changements, lents, successifs, par lesquels Paris finit par égratigner la surface des villes départementales, et qui marquent essentiellement la transition de l'ex-boutiquier au provincial renforcé. Cette transition constitue une véritable maladie. Aucun détaillant ne passe impunément de son bavardage continuel au silence et de son activité parisienne à l'immobilité provinciale. Quand ces braves gens ont gagné quelques fortunes, ils en dépensent une certaine partie à leur passion longtemps couvée, et y déverse les dernières oscillations d'un mouvement qui ne saurait s'arrêter à volonté. Ceux qui n'ont pas caressé d'idées fixes voyagent ou se jettent dans les occupations politiques de la municipalité. Ceux-ci vont à la chasse ou pêchent, tracassent leurs fermiers ou leurs locataires. Ceux-là deviennent usuriers comme le père Rogron, ou actionnaires comme tant d'inconnus. Le thème du frère et de la sœur, vous le connaissez. Ils avaient à satisfaire leur royale fantaisie de manier la truelle à se construire leur charmante maison. Cette idée fixe valut à la place du Bas-Provins la façade que venait d'examiner Brigaut. Les distributions d'intérieur de cette maison et son luxueux mobilier. L'entrepreneur ne mit pas un clou sans consulter les Rogron, sans leur faire signer les dessins et les devis, sans leur expliquer longuement en détail la nature de l'objet en discussion, où il se fabriquait et ses différents prix. Quant aux choses extraordinaires, elles avaient été employées chez M. Tiphaine ou chez Mme Julliard, la jeune, ou chez M. Garcelan, le maire. Une similitude quelconque avec un des riches bourgeois de Provins finissait toujours le combat à l'avantage de l'entrepreneur. Ah, du moment où M. Garcelan a cela chez lui, mettez, disait Mademoiselle Rogron. Cela doit être bien, il a bon goût. Sylvie, il nous propose des oeufs dans la corniche du corridor. Vous appelez cela des oeufs? Oui, mademoiselle. Oh, pourquoi? Quel singulier nom! J'en ai jamais entendu parler. Mais vous en avez vu? Oui. Savez-vous le latin? Non. Eh bien, cela veut dire œuf. Les œufs sont des œufs. Ah, comme vous êtes drôles, vous autres architectes, s'écrièrent Rogron. C'est sans doute pour cela que vous ne donnez pas vos coquilles. Peindrons-nous le corridor? Disait l'entrepreneur. Ma foi, non, s'écriait Sylvie. Encore 500 francs. Oh, le salon et l'escalier sont trop jolis pour ne pas décorer le corridor, disait l'entrepreneur. La petite madame Le Sourd a fait peindre le sien l'année dernière. Mais cependant, son mari, comme procureur du roi, peut ne pas rester à Provins.
Oui, oui, il sera quelques jours président du tribunal, disait l'entrepreneur.
Eh bien, que faites-vous donc alors de M. Tiphaine?
M. Tiphaine, oh, il a une jolie femme. Oh, je ne suis pas embarrassé de lui. M. Tiphaine ira à Paris.
Peindre-nous dans le corridor?
Oui, oui, le sourd verra, du moins que nous les valons bien, disait Rogron.
La première année de l'établissement des Rogron à Provins fut entièrement occupée par ses délibérations, par le plaisir de voir travailler les ouvriers, par les étonnements et les enseignements de tout genre qui en résultaient, et par les tentatives qui firent le frère et la sœur pour se lier avec les principales familles de Provins. Les Rogron n'étaient jamais allés dans aucun monde, n'étaient pas sortis de leur boutique. Ils ne connaissaient absolument personne à Paris. Ils avaient soif des plaisirs de la société. À leur retour, les émigrés retrouvèrent d'abord M. et Mme Julliard du verre chinois, avec leurs enfants et petits-enfants. Puis la famille des Guépins, ou mieux le clan des Guépins, dont le petit-fils tenait encore les trois quenouilles. Enfin, Mme Guénée, qui leur avait vendu la sœur de famille, et dont les trois filles étaient mariées à Provins. Ces trois grandes races, les Julliards, les Guépins et les Guénées, s'étendaient dans la ville comme du chien-dent sur une pelouse. Le maire, M. Garcelan, était gendre de M. Guépin. Le curé, M. l'abbé Péroux, était le propre frère de Mme Julliard, qui était une Péroux. Le président du tribunal, M. Tiphaine, était le frère de Madame Guénée, qui signe Née Tiphaine. La reine de la ville était la belle Madame Tiphaine la jeune, la fille unique de Madame Roqueguin, la riche femme d'un ancien notaire de Paris, de qui on ne parlait jamais. Délicate, jolie et spirituelle, mariée en province, exprès par sa mère, qui ne la voulait point près d'elle et l'avait tirée de son pensionnat quelques jours avant son mariage, Mélanie Roguin se considérait comme en exil à Provins et s'y conduisait admirablement bien. Richement dotée, elle avait encore de belles espérances. Quant à M. Tiphaine, son vieux père avait fait à sa fille aînée, Madame Guinée, de tels avancements d'hoirie qu'une terre de 8 000 livres de rente, située à Saint-Lieu-de-Provins, devait revenir au président. Ainsi, les Tiphaine, mariés avec 20 000 livres de rente, sans compter la place ni la maison du président, devaient un jour réunir 20 autres 1 000 livres de rente. Il n'était pas malheureux, disait-on. La grande, la seule affaire de la belle Madame Tiphaine, était de faire nommer M. Tiphaine député. Le député deviendrait juge à Paris, et du tribunal, elle se promettait de le faire monter promptement à la cour royale. Aussi ménageait-elle tous les amours-propres, s'efforçait-elle de plaire. Mais, oh, chose plus difficile, elle y réussissait. 2 fois par semaine, elle recevait toute la bourgeoisie de Provins dans sa belle maison de la ville haute. Cette jeune femme de 22 ans n'avait point encore fait un seul pas de clair sur le terrain glissant où elle s'était placée. Elle satisfaisait tous les amours-propres, caressait les dadas de chacun. Grave avec les gens graves, jeune fille avec les jeunes filles, essentiellement mère avec les mères, gaie avec les jeunes femmes et disposée à les servir, gracieuse pour tous, enfin une perle, un trésor, l'orgueil de Provins. Elle n'en avait pas dit encore un mot, mais tous les électeurs de Provins attendaient que leur cher président eût l'âge requis pour le nommer. Chacun d'eux, sûr de ses talents, en faisait son homme, son protecteur. Ah, où M. Tiphaine arriverait? Il serait garde des Sceaux, il s'occuperait de Provins. Voici par quels moyens l'heureuse Madame Tiphaine était parvenue à régner sur la petite ville de Provins. Madame Guénée, sœur de M. Tiphaine, après avoir marié sa première fille à M. Le Sourd, procureur du roi, la seconde à M. Martenet, le médecin, la troisième à M. Auffray, le notaire, avait épousé en seconde noce M. Galardon, le receveur des contributions. Mesdames Le Sourd, Martenet, Auffray et leur mère, Madame Galardon, virent dans le président Tiphaine l'homme le plus riche et le plus capable de la famille. Le procureur du roi, un neveu par alliance de M. Tiphaine, avait tout intérêt à pousser son oncle à Paris pour devenir président à Provins. Aussi ces 4 dames, Madame Galardon adorait son frère, formèrent-elles une cour à Madame Tiphaine, de qui elles prenaient les avis et les conseils en toutes choses. Monsieur Julliard, fils aîné, qui avait épousé la fille unique d'un riche fermier, se prit d'une belle passion subite, secrète et désintéressée pour la présidente, cet ange descendu des cieux parisiens. La rusée Mélanie, incapable de s'embarrasser d'un Julliard,
très capable de le maintenir à l'état d'amadis et d'exploiter sa sottise, lui donna le conseil d'entreprendre un journal auquel elle servit d'égérie. Depuis 2 ans, Julliard, doublé de sa passion romantique, avait donc entrepris une feuille et une diligence publique pour Provins. Le journal, appelé La Ruche, journal de Provins, contenait des articles littéraires, archéologiques et médicaux faits en famille. Les annonces de l'arrondissement payaient les frais. Les abonnés, au nombre de 200, étaient le bénéfice. Il y paraissait des stances mélancoliques, incompréhensibles en bris et adressées à elle, avec ses 3 points. Ainsi, le jeune ménage Julliard, qui chantait les mérites de Madame Tiphaine, avait réuni le clan des Julliard à celui des Guénés. Dès lors, le salon du président était naturellement devenu le premier de la ville. Le peu d'aristocratie qui se trouve à Provins forme un seul salon dans la ville haute, chez la vieille comtesse de Bréautey. Pendant les 6 premiers mois de leur transplantation, favorisés par leurs anciennes relations avec les Julliard, les Guépin, les Guénés, et après s'être appuyés de leur parenté avec M. Auffray, le notaire, arrière-petit-neveu de leur grand-père, les Rogron furent reçus d'abord par Mme Julliard, la mère, et par Mme Galardon, puis ils arrivèrent avec assez de difficultés dans le salon de la belle Mme Tiphaine. Chacun voulut étudier les Rogron avant de les admettre. Il était difficile de ne pas accueillir des commerçants de la rue Saint-Denis, nés à Provins et revenant y manger leurs revenus. Néanmoins, le but de toute société sera toujours d'amalgamer des gens de fortune, d'éducation, de mœurs, de connaissances et de caractères semblables. Or, les Guépin, les Guénés et les Julliard étaient des personnes plus haut placées et plus anciennes de bourgeoisie que les Rogron, fils d'un aubergiste, usurier, qui avait eu quelques reproches à se faire jadis et par sa conduite privée et relativement à la succession aux frais. Le notaire Auffray, le gendre de Madame Galardon, née Tiphaine, savait à quoi s'en tenir. Les affaires s'étaient arrangées chez son prédécesseur. Ses anciens négociants, revenus depuis 12 ans, s'étaient mis au niveau de l'instruction, du savoir-vivre et des façons de cette société, à laquelle Madame Tiphaine imprimait un certain cachet d'élégance, un certain vernis parisien. Tout y était homogène. On s'y comprenait, chacun savait s'y tenir et y parler de manière à être agréable à tous. Ils connaissaient tous leur caractère et s'étaient habitués les uns aux autres. Une fois reçus chez M. Garcelan, le maire, les Rogron se flattèrent d'être un peu de temps au mieux avec la meilleure société de la ville. Sylvie apprit alors à jouer le boston. Rogron, incapable de jouer à aucun jeu, tournait ses pouces et avalait ses phrases une fois qu'il avait parlé de sa maison. Mais ses phrases étaient comme une médecine. Elles paraissaient le tourmenter beaucoup. Il se levait, il avait l'air de vouloir parler, il était intimidé, se rasseyait et avait de comiques convulsions dans les lèvres. Sylvie développa naïvement son caractère au jeu. Tracassière, geignant toujours quand elle perdait, d'une joie insolente quand elle gagnait, processive, taquine, elle impatienta ses adversaires, ses partenaires, et devint le fléau de la société. Dévorés d'une envie niaise et franche, Rogron et sa sœur eurent la prétention de jouer un rôle dans une ville sur laquelle 12 familles étendaient un filet à mailles serré, où tous les intérêts, tous les amours-propres formaient comme un parquet sur lequel de nouveaux venus devaient se bien tenir pour n'y rien heurter ou pour n'y pas glisser. En supposant que la restauration de leur maison coûtât 30 000 francs, le frère et la sœur réunissaient 10 000 livres de rente. Ils se crurent très riches, assommèrent cette société de leur luxe futur et laissèrent prendre la mesure de leur petitesse, de leur ignorance crasse, de leur seule jalousie. Le soir où ils furent présentés à la belle Madame Tiphaine, qui déjà les avait observés chez Madame Garcelan, chez sa belle-sœur Galardon et chez Madame Julliard, la mère, la reine de la ville dit confidentiellement à Julliard fils, qui resta quelque temps après tout le monde en tête à tête avec elle et le président: vous êtes donc tous bien coiffés de ces rogrons? Vous êtes donc tous bien coiffés de ces rogrons? Moi, dit la madice de province, ils ennuient ma mère, ils excèdent ma femme. Et comme Mademoiselle Sylvie a été mise en apprentissage il y a 30 ans chez mon père, il pouvait déjà pas la supporter. Mais j'ai fort envie, dit la jolie présidente en mettant son petit pied sur la barre de son garde-cendre, de faire comprendre que mon salon n'est pas une auberge. Julliard leva les yeux au plafond comme pour dire: mon Dieu, combien d'esprit, quelle finesse! Je veux que ma société soit choisie, et si j'admettais les Rougons, certes je ne le serais pas. Eux, ils sont sans cœur, sans esprit ni manière, dit le président. Quand, après avoir vendu du fil pendant 20 ans, comme l'a fait ma sœur, par exemple, mon ami, votre sœur ne serait déplacée dans aucun salon, dit en parenthèse Madame Tiphaine. Si on a la bêtise de demeurer encore mercier, dit le président en continuant, si on ne se décrasse pas, si l'on prend les comptes de champagne pour des mémoires de vin fournis comme ces Rougons l'ont fait ce soir, on doit rester chez soi. Mais ils sont puants, dit Julliard. Il semble qu'il n'y ait qu'une maison dans Provins. Ils veulent nous écraser tous. Après tout, à peine ont-ils de quoi vivre. Ben, s'il n'y avait que le frère, reprit Madame Tiphaine, on le souffrirait. Il n'est pas gênant. En lui donnant un casse-tête chinois, il resterait dans un coin bien tranquillement. Il en aurait pour tout un hiver à trouver une combinaison. Mais Mademoiselle Sylvie, quelle voix d'hyène enrhumée, quelle patte de homard! N'était rien de ceci, Julliard. Quand Julliard fut parti, la petite femme dit à son mari: mon ami, j'ai déjà bien assez des indigènes que je suis obligé de recevoir. Ces deux de plus me feraient mourir, et si tu le permets, nous nous en priverons. Oh, tu es bien la maîtresse chez toi, dit le président. Mais nous nous ferons des ennemis. Les Rogros se jetteront dans l'opposition, qui jusqu'à présent n'a pas encore été de consistance à Provins. Ce Rogros hante déjà le baron Gouraud et l'avocat Vinet. Dit en souriant Mélanie. Ils te rendront à leur service. Là où il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de triomphe. Une conspiration libérale, une association illégale, une lutte quelconque te mettrait en évidence. Le président regarda sa jeune femme avec une sorte d'admiration craintive. Le lendemain, chacun se dit à l'oreille et chez Madame Garcelan que les Rogron n'avaient pas réussi chez Madame Tiphaine,
dont le mot sur l'auberge est un immense succès. Madame Tiphaine fut un mois à rendre sa visite à Mademoiselle Sylvie. Cette insolence est très remarquée en province. Sylvie eut au Boston, chez Madame Tiphaine, avec la respectable Madame Julliard, la mère, une scène désagréable à propos d'une misère superbe que son ancienne patronne lui fit perdre, disait-elle, méchamment et à dessein. Jamais Sylvie, qui aimait à jouer de mauvais tours aux autres, ne concevait qu'on lui rendît l'appareil. Madame Tiphaine donna l'exemple de composer les parties avant l'arrivée des Rogron, en sorte que Sylvie fut réduite à errer de table en table, en regardant jouer les autres, qui la regardaient en dessous d'un air narquois. Chez Madame Julliard, la mère, on se mit à jouer le whist, jeu que ne savait pas Sylvie. La vieille fille finit par comprendre sa mise hors la loi, sans en comprendre les raisons. Elle se crut l'objet de la jalousie de tout ce monde. Les Rogron ne furent bientôt plus priés chez personne, mais ils persistèrent à passer leurs soirées en ville. Les gens spirituels se moquèrent d'eux, sans fiel, doucement, en leur faisant dire de grosses balourdises sur les oves de leur maison, sur une certaine cave à liqueur qui n'avait pas sa pareille à Provins. Cependant, la maison des Rogron s'acheva. Naturellement, ils donnèrent quelques somptueux dîners, autant pour rendre les politesses reçues que pour exhiber leur luxe. On vint seulement par curiosité. Le premier dîner fut offert aux principaux personnages, à Monsieur et Madame Tiphaine, chez lesquels les Rogron n'avaient cependant pas mangé une seule fois, à Monsieur et Madame Julliard, père et fils, mère et belle-fille, Monsieur Le Sourd, Monsieur le curé, Monsieur et Madame Galardon. Ce fut un de ces dîners de province où l'on tient la table depuis 5 jusqu'à 9 heures. Madame Tiphaine importait à Provins les grandes façons de Paris, où les gens comme il faut quittent le salon après le café pris. Elle avait soirée chez elle et voulut s'évader. Mais les Rogron suivirent le ménage jusque dans la rue, et quand ils revinrent, stupéfait de l'avoir pu retenir Monsieur le Président et Madame la Présidente, les autres convives leur expliquèrent le bon goût de Madame Tiphaine, en l'imitant avec une célérité cruelle en province. « Oh, ils ne verront pas notre salon allumé, » dit Sylvie, « et la lumière est son phare. » Les Rogron avaient voulu ménager une surprise à leurs hôtes. Personne n'avait été admis à voir cette maison devenue célèbre. Aussi, tous les habitués du salon de Madame Tiphaine attendaient-ils avec impatience son arrêt sur les merveilles du palais Rogron. « Eh bien, lui dit la petite Madame Martener, vous avez vu le Louvre, racontez-nous-en bien tout. Mais tout, ce sera comme le dîner, pas grand-chose. » Comment est-ce? Eh bien, cette porte bâtarde de laquelle nous avons dû nécessairement admirer les croisillons en fonte dorée que vous connaissez, dit Madame Tiphaine, donne entrée sur un long corridor qui partage assez inégalement la maison, puisqu'à droite il n'y a qu'une fenêtre sur la rue, tandis qu'il s'en trouve deux à gauche. Du côté du jardin, ce couloir est terminé par la porte vitrée du perron qui descend sur une pelouse ornée d'un socle où s'élève le plâtre de Spartacus peint en bronze. Derrière la cuisine, l'entrepreneur a ménagé, sous la cage de l'escalier, une petite chambre aux provisions de laquelle on ne nous a pas fait grâce. Cet escalier, entièrement peint en marbre portant, consiste en une rampe évidée tournant sur elle-même
comme celle qui, dans les cafés, mène du rez-de-chaussée au cabinet de l'entresol. Ce conifichet, en bois de noyer, d'une légèreté dangereuse, à balustrade ornée de cuivre, nous a été donné pour une des sept nouvelles merveilles du monde. La porte des caves est dessous. De l'autre côté du couloir, sur la rue, se trouve la salle à manger, qui communique par une porte à deux battants avec un salon d'égale dimension, dont les fenêtres offrent la vue du jardin. « Ah, 6 points d'antichambre, » dit Madame Auffray. « Non, mais l'antichambre est sans doute ce long couloir où l'on est entre deux airs, » répondit Madame Tiphaine. « Nous avons eu la pensée éminemment nationale, libérale, constitutionnelle et patriotique de n'employer que des bois de France, » reprit-elle. Ainsi, dans la salle à manger, le parquet est en bois de noyer et façonné en point de Hongrie. Les buffets, la table et les chaises sont également en noyer. Aux fenêtres, des rideaux en calicot blanc, encadrés de bandes rouges, attachés par de vulgaires embrasses rouges sur des patères exagérés, à une rosace découpée, dorée au mat et dont le champignon ressort sur un fond rougeâtre. Ces rideaux magnifiques glissent sur des bâtons terminés par des palmettes extravagantes où les fixent des griffes de lion en cuivre estampé, disposées en haut de chaque pli. Au-dessus d'un des buffets, on voit un cadran de café suspendu par une espèce de serviette en bronze doré. Une de ces idées qui plaisent singulièrement au rougon. Ils ont voulu me faire admirer cette trouvaille. Je n'ai rien trouvé de mieux à leur dire que si jamais on a dû mettre une serviette autour d'un cadran, c'était bien dans une salle à manger. Il y a sur ce buffet deux grandes lampes semblables à celles qui parlent comptoir des célèbres restaurants. Au-dessus de l'autre se trouve un baromètre excessivement orné qui paraît devoir jouer un grand rôle dans leur existence. Les rogrons le regardent comme il regarderait sa prétendue. Entre les deux fenêtres, l'ordonnateur du logis a placé un poêle en faïence blanche dans une niche horriblement riche. Sur les murs brille un magnifique papier rouge et or, comme il s'en trouve dans ces mêmes restaurants, et que le rogron y a sans doute choisi sur place. Le dîner nous a été servi dans un service de porcelaine blanc et or, avec son dessert bleu barbeau à fleurs vertes. Mais on nous a ouvert un des buffets pour nous faire voir un autre service en terre de pipe pour tous les jours. En face de chaque buffet, une grande armoire contient le linge. Tout cela est verni, propre, neuf, plein de ton criard. J'admettrai encore cette salle à manger, elle a son caractère. Quelque désagréable qu'il soit, il peint très bien celui des maîtres de la maison. Mais il n'y a pas moyen de tenir à 5 de ces gravures noires contre lesquelles le ministre de l'Intérieur devrait présenter une loi et qui représente Poniatowski sautant dans l'Elster, la défense de la barricade de Clichy, Napoléon pointant lui-même un canon, et les deux Mazeppa, toutes encadrées dans des cadres dorés, dont le vulgaire modèle confient à ses gravures, capables de faire prendre les succès en haine. Oh, combien j'aime mieux les pastels de Madame Julliard, qui représentent des fruits, ces excellents pastels faits sous Louis XV et qui sont en harmonie avec cette bonne vieille salle à manger, à boiseries grises et un peu vermoulues, mais qui certes ont le caractère de la province et vont avec la grosse argenterie de famille, avec la porcelaine antique et nos habitudes. La province est la province, elle est ridicule quand elle veut singer Paris. Vous me direz peut-être, vous êtes orfèvre, monsieur Josse. Mais je préfère le vieux salon que voici de Monsieur Tiphaine le père, avec ses gros rideaux de lampasse vert et blanc, avec sa cheminée Louis XV, ses trumeaux contournés, ses vieilles glaces à perles et ses vénérables tables à jouer. Mes vases de vieux Sèvres, en vieux bleu, montés en vieux cuivre, ma pendule à fleurs impossibles, mon lustre rococo, et mon meuble en tapisserie à toutes les splendeurs de leur salon. Comment est-il, dit Monsieur Martener, très heureux de l'éloge que la belle Parisienne venait de faire si adroitement de la province. Oh, quant au salon, il est d'un beau rouge, le rouge de Mademoiselle Sylvie, quand elle se fâche de perdre une misère. Ah, le rouge Sylvie, dit le président, dont le mot resta dans le vocabulaire de province. Les rideaux des fenêtres, rouges. Les meubles, rouges. La cheminée, marbre rouge portant. Les candélabres et la pendule, marbre rouge portant, montés en bronze d'un dessin commun, lourd, des culs de lampe romains soutenus par des branches à feuillage grec. Du haut de la pendule, vous êtes regardé à la manière des rogrons, d'un air niais, par ce gros lion bon enfant, appelé lion d'ornement, et qui nuira pendant longtemps au vrai lion. Ce lion roule sous une de ses pattes une grosse boule, un détail des mœurs du lion d'ornement. Il passe sa vie à tenir une grosse boule noire, absolument comme un député de la gauche. Peut-être est-ce un mythe constitutionnel. Le cadran de cette pendule est bizarrement travaillé. La glace de la cheminée offre cet encadrement à pattes appliquées d'un effet mesquin, vulgaire, quoique nouveau. Mais le génie du tapissier éclate dans les plis rayonnants d'une étoffe rouge qui partent d'une patère mise au centre du devant de cheminée. Un poème romantique composé tout exprès pour les rogrons, qui s'extasie en vous le montrant. Au milieu du plafond, pend un lustre soigneusement enveloppé dans un suaire de percaline verte, et avec raison, oh, il est du plus mauvais goût. Le bronze d'un ton aigre a pour ornement des filets plus détestables en or bruni. Dessous, une table à thé, ronde, à marbre plus que jamais portant, offre un plateau moire métallique où reluisent des tasses en porcelaine peinte. Mais quelle peinture! Et groupée autour d'un sucrier en cristal taillé, si crânement que nos petites filles ouvriront de grands yeux en admirant, et les cercles de cuivre doré qui le bordent, et ses côtes tailladées comme un pourpoint du Moyen-Âge, et la pince à prendre le sucre de laquelle on ne se servira probablement jamais. Ce salon a pour tenture un papier rouge qui joue le velours, encadré par panneaux dans des baguettes de cuivre agrafées aux quatre coins par des palmettes énormes. Chaque panneau est surorné d'une lithochromie encadrée dans des cadres surchargés de festons en pâte qui simule nos belles sculptures en bois. Le meuble, en casimir et en racine d'orme, se compose classiquement de deux canapés, deux bergères, six fauteuils et six chaises. La console est embellie d'un vase en albâtre, dit à la Médicis, mis sous verre et de cette magnifique cave à liqueur si célèbre. Nous avons été suffisamment prévenus qu'il n'en existe pas une seconde à Provins. Chaque embrasure de fenêtre, où sont drapés de magnifiques rideaux en soie rouge, doublés de rideaux en tulle, contient une table à jouer. Le tapis est d'Aubusson. Les rogrons n'ont pas manqué de mettre la main sur ce fond rouge à rosaces fleuries, le plus vulgaire des dessins communs. Ce salon n'a pas l'air d'être habité, vous n'y voyez ni livres, ni gravures, ni ces menus objets qui meublent les tables, dit-elle en regardant sa table chargée d'objets à la mode, d'albums, des jolies choses qu'on lui donnait. « Il n'y a ni fleurs, ni aucune de ces riens qui se renouvellent. C'est froid et sec comme Mademoiselle Sylvie. Buffon a raison, le style est l'homme, et certes, les salons ont un style. » La belle Madame Tiphaine continua sa description épigrammatique. D'après cet échantillon, chacun se figura facilement l'appartement que la sœur et le frère occupaient au premier étage et qu'ils montrèrent à leurs hôtes. Mais personne ne saurait inventer les sottes recherches auxquelles le spirituel entrepreneur avait entraîné les Rogron. Les moulures des portes, les volets intérieurs façonnés, les pattes d'ornement dans les corniches, les jolies peintures, les mains en cuivre doré, les sonnettes, les intérieurs de cheminée à système fumivore, les inventions pour éviter l'humidité, les tableaux de marqueterie figurés par la peinture dans l'escalier, la vitrerie, la serrurerie super fine, enfin tous ces colifichets qui renchérissent une construction et qui plaisent aux bourgeois, avaient été prodigués outre mesure. Personne ne voulut aller aux soirées des Rogron, dont les prétentions avortèrent. Les raisons de refus ne manquaient pas. Tous les jours étaient acquis à Madame Garcelan, à Madame Galardon, aux dames Julliard, à Madame Tiphaine, aux sous-préfets, etc. Pour se faire une société, les Rogron crurent qu'il suffisait de donner à dîner. Ils eurent des jeunes gens assez moqueurs et les dîneurs qui se trouvent dans tous les pays du monde. Mais les personnes graves cessèrent toutes de les voir. Effrayés par la perte sèche de 40 000 francs engloutis sans profit dans la maison, qu'elle appelait sa chère maison, Sylvie voulut regagner cette somme par des économies. Elle renonça donc promptement à des dîners qui coûtaient 30 à 40 francs sans les vins et qui ne réalisaient point son espérance d'avoir une société, création aussi difficile en province qu'à Paris. Sylvie renvoya sa cuisinière et prit une fille de campagne pour les gros ouvrages. Elle fit sa cuisine elle-même pour son plaisir, entre guillemets. 14 mois après leur arrivée, le frère et la sœur tombèrent donc dans une vie solitaire et sans occupation. Son bannissement du monde avait engendré dans le cœur de Sylvie une haine effroyable contre les Tiphaine, les Julliard, les Auffray, les Garcelan, enfin contre la société de Provins qu'elle nommait la clique et avec laquelle ses rapports devinrent excessivement froids. Elle aurait bien voulu leur opposer une seconde société. Mais la bourgeoisie inférieure était entièrement composée de petits commerçants, libres seulement les dimanches et les jours de fête, ou de gens tarés comme l'avocat Vinet et le médecin Néraud, des bonapartistes inadmissibles comme le colonel Baron Gouraud, avec lesquels Rogron se lia d'ailleurs très inconsidérément, et contre lesquels la haute bourgeoisie avait essayé vainement de le mettre en garde. Le frère et la sœur furent donc obligés de rester au coin de leur poêle, dans leur salle à manger, en se remémorant leurs affaires, les figures de leurs pratiques et autres choses aussi agréables. Le second hiver ne se termina pas sans que l'ennui pesât sur eux effroyablement. Ils avaient 1000 peines à employer le temps de leur journée. En allant se coucher le soir, il disait « Encore une de passée !» Il traînassait le matin en se levant, restait au lit, s'habillait lentement. Rogron se faisait lui-même la barbe tous les jours. Il s'examinait la figure, il entretenait sa sœur des changements qu'il croyait y apercevoir. Il avait des discussions avec la servante sur la température de son eau chaude. Il allait au jardin, regardait si les fleurs avaient poussé. Il s'aventurait au bord de l'eau où il avait fait construire un kiosque. Il observait la menuiserie de sa maison. Avait-elle joué? Le tassement avait-il fendillé quelques tableaux? Les peintures se soutenaient-elles? Il revenait parler de ses craintes sur une poule malade ou sur un endroit où l'humidité laissait subsister des taches, à sa sœur qui faisait la ferrée en mettant le couvert, en tracassant la servante. Le baromètre était le meuble le plus utile à Rogron. Il le consultait sans cause, il le tapait familièrement comme un ami, puis il disait « Ben, il fait vilain !» Sa sœur lui répondait « Ben, il fait le temps de la saison !» Si quelqu'un venait le voir, il vantait l'excellence de cet instrument. Le déjeuner prenait encore un peu de temps. Avec quelle lenteur ces deux êtres mastiquaient une chaque bouchée. Aussi leur digestion était-elle parfaite. Oh, ils n'avaient pas à craindre de cancer à l'estomac. Ils gagnaient midi par la lecture de la ruche et du constitutionnel. L'abonnement du journal parisien était supporté par Thiers avec l'avocat Vinet et le colonel Gouraud. Rogron allait porter lui-même les journaux au colonel qui logeait sur la place dans la maison de M. Martener et dont les longs récits lui faisaient un plaisir énorme. Aussi Rogron se demandait-il en quoi le colonel était dangereux. Il eut la sottise de lui parler de l'ostracisme prononcé contre lui, de lui rapporter les dires de la clique. Dieu sait comme le colonel, aussi redoutable au pistolet qu'à l'épée, et qui ne craignait personne, arrangea la Tiphaine et son Julliard et les ministériels de la haute ville, gens vendus à l'étranger, capables de tout pour avoir des places, lisant aux élections les noms à leur fantaisie sur les bulletins, etc., etc. Vers 2 heures, Rogron entreprenait une petite promenade. Il était bien heureux quand un boutiquier sur le pas de sa porte l'arrêtait en lui disant « Comment va, père Rogron ?» Il causait et demandait des nouvelles de la ville. Il écoutait et colportait les commérages, les petits bruits de province. Il montait jusqu'à la haute ville et allait dans les chemins creux selon le temps. Parfois, il rencontrait des vieillards en promenade comme lui. Ces rencontres étaient d'heureux événements. Il se trouvait à Provins des gens désabusés de la vie parisienne, des savants modestes vivant avec leurs livres. Jugé de l'attitude de Rogron, en écoutant un suppléant nommé Desfondrilles, puis archéologue que magistrat, disant à l'homme instruit, le vieux monsieur Martener, le père, en lui montrant la vallée, « Expliquez-moi pourquoi les oisifs de l'Europe vont à Spa plutôt qu'à Provins, quand les eaux de Provins ont une supériorité reconnue par la médecine française, une action, une martialité digne des propriétés médicales de nos roses ?»« Oh, que voulez-vous » répliquait l'homme instruit. C'est un de ses caprices du caprice, inexplicable comme lui. Le vin de Bordeaux était inconnu il y a 100 ans. Le maréchal de Richelieu, l'une des plus grandes figures du dernier siècle, l'Alcibiade français, est nommé gouverneur de la Guyenne. Il avait la poitrine délabrée et l'univers sait pourquoi. le vin du pays le restaure, le rétablit. Bordeaux acquiert alors 100 millions de rentes et le maréchal recule le territoire de Bordeaux jusqu'à Angoulême, jusqu'à Cahors, enfin 40 lieues à la ronde. Qui sait où s'arrêtent les vignobles de Bordeaux? Et le maréchal n'a pas de statue équestre à Bordeaux. S'il arrive un événement de ce genre à Provins, dans un siècle ou dans un autre, on y verra, je l'espère, reprenait alors M. Desfondrilles, soit sur la petite place de la basse ville, soit au château dans la ville haute, quelques bas-reliefs en marbre blanc, représentant la tête de M. Opois, le restaurateur des eaux minérales de Provins. Bon cher monsieur, peut-être la réhabilitation de Provins est-elle impossible, disait le vieux monsieur Martener, le père. Cette ville a fait faillite. Ici, Rogron ouvrait de grands yeux et s'écriait « Comment ?» Elle a jadis, c'était une capitale qui luttait victorieusement avec Paris au XIIe siècle, quand les comtes de Champagne y avaient leur cours. Comme le roi René tenait la sienne en Provence, répondait l'homme instruit. Oh, ce temps-là, la civilisation, la joie, la poésie, l'élégance, les femmes, enfin, toutes les splendeurs spéciales n'étaient pas exclusivement à Paris. Les villes se relèvent aussi difficilement que les maisons de commerce de leurs ruines. Il ne nous reste à Provins que le parfum de notre gloire historique. Celui de nos roses et une sous-préfecture. Ah, que serait la France si elle avait conservé toutes ses capitales féodales, disait Desfondrilles. Les sous-préfets peuvent-ils remplacer la race poétique, galante et guerrière des Thibauts, qui avait fait de Provins ce que Ferrare était en Italie, ce que fut Weimar en Allemagne et ce que voudrait être aujourd'hui Munich? Provins était une capitale? S'écria Rogron. Mais d'où venez-vous donc? Répondait l'archéologue Desfondrilles. Le juge suppléant frappait alors de sa canne le sol de la ville haute et s'écriait. Mais ne savez-vous donc pas que toute cette partie de Provins est bâtie sur des cryptes? Cryptes? Eh bien oui, des cryptes d'une hauteur et d'une étendue inexplicables. C'est comme des nefs de cathédrale. Il y a des piliers. Monsieur fait un grand ouvrage archéologique dans lequel il compte expliquer ces singulières constructions, disait le vieux Martener, qui voyait le juge enfourchant son dada. Rogron revenait enchanté de savoir sa maison construite dans la vallée. Les cryptes de Provins employèrent 5 à 6 journées en exploration et défrayèrent pendant plusieurs soirées la conversation des deux célibataires. Rogron apprenait toujours ainsi quelque chose sur le vieux Provins, sur les alliances des familles, ou de vieilles nouvelles politiques qu'il renarrait à sa sœur. Aussi, disait-il 100 fois dans sa promenade, et souvent plusieurs fois à la même personne, « Eh bien, que dit-on? Eh bien, qu'y a-t-il de neuf ?» Revenu dans sa maison, il se jetait sur un canapé du salon en homme harassé de fatigue, mais éreinté seulement de son propre poids. Il arrivait à l'heure du dîner en allant 20 fois du salon à la cuisine, examinant l'heure, ouvrant et fermant les portes. Tant que le frère et la sœur eurent des soirées en ville, ils atteignirent à leur coucher. Mais quand ils furent réduits à leur intérieur, la soirée fut un désert à traverser. Quelquefois, les personnes qui revenaient chez elles sur la petite place, après avoir passé la soirée en ville, entendaient des cris chez les Rogron, comme si le frère assassinait la sœur. Reconnut les horribles bâillements d'un mercier aux abois. Ces deux mécaniques n'avaient rien à broyer entre leurs rouages rouillés. Elles criaient. Le frère parla de se marier, mais en désespoir de cause. Il se sentait vieilli, fatigué. Une femme l'effrayait. Sylvie, qui comprit la nécessité d'avoir un tiers au logis, se souvint alors de leur pauvre cousine, de laquelle personne ne leur avait demandé de nouvelles, car à Provins, chacun croyait la petite Madame Lorrain et sa fille mortes toutes deux. Sylvie Rogron ne perdait rien. Elle était bien trop vieille fille pour égarer quoi que ce soit. Elle eut l'air d'avoir retrouvé la lettre des Lorrain afin de parler tout naturellement de Pierrette à son frère, qui fut presque heureux de la possibilité d'avoir une petite fille au logis. Sylvie écrivit, moitié commercialement, moitié affectueusement, au vieux Lorrain, en rejetant le retard de sa réponse sur la liquidation des affaires, sur sa transplantation à Parvroin et sur son établissement. Et elle parut désireuse de prendre sa cousine avec elle, en donnant à entendre que Pierrette devrait un jour avoir un héritage de 12 000 livres de rente si Monsieur Rogron ne se mariait pas. Il faudrait avoir été, comme Nabucodonosor, quelque peu bête sauvage et enfermé dans une cage du jardin des plantes, sans autre proie que la viande de boucherie apportée par le gardien, ou négociant retiré sans commis à tracasser pour savoir avec quelle impatience le frère et la sœur attendirent leur cousine Lorrain. Aussi, 3 jours après que la lettre fut partie, le frère et la sœur se demandaient-ils déjà quand leur cousine arriverait. Sylvie aperçut dans sa prétendue bienfaisance envers sa cousine pauvre un moyen de faire revenir la société de Provins sur son compte. Elle alla chez Madame Tiphaine, qui les avait frappés de sa réprobation et qui voulait créer à Provins une première société, comme à Genève, y tambouriner l'arrivée de leur cousine Pierrette, la fille du colonel Lorrain, en déplorant ses malheurs et se posant en femme, heureuse d'avoir une belle et jeune héritière à offrir au monde. « Vous l'avez découverte bien tard, » répondit ironiquement Madame Tiphaine, qui trônait sur un sofa au coin de son feu. Par quelques mots dits à voix basse pendant une donne de cartes, Madame Garcelan rappela l'histoire de la succession du vieil Auffray. Le notaire expliqua les iniquités de l'aubergiste. « Et où est-elle, cette pauvre petite ?» demanda poliment le président Tiphaine. « En Bretagne, » dit Rogron. « Ah, mais la Bretagne est grande !» fit observer Monsieur Le Sourd, le procureur du roi. « Et son grand-père et sa grand-mère Lorrain nous ont écrit. » « Mais quand donc, ma bonne ?» fit Rogron. Sylvie, occupée à demander à Madame Garcelan où elle avait acheté l'étoffe de sa robe, ne prévit pas l'effet de sa réponse et dit « Oh bien, avant la vente de notre fonds. Et vous avez répondu il y a 3 jours, mademoiselle ?» s'écria le notaire. Sylvie devint rouge comme les charbons les plus ardents du feu. Ben, nous avons écrit à l'établissement Saint-Jacques, reprit Rogron. Ah oui, il s'y trouve en effet une espèce d'hospice pour les vieillards, dit un juge qui avait été juge suppléant à Nantes. Mais elle ne peut pas être là, car on n'y reçoit que des gens qui ont passé 60 ans. Et si elle y est avec sa grand-mère, Lorrain, dit Rogron. Elle avait une petite fortune, les 8 000 francs que votre père, non, enfin je veux dire votre grand-père, lui avait laissé, dit le notaire, qui fit exprès de se tromper.
Non ? S'écria Rogron d'un air bête sans comprendre cet épigramme. Vous ne connaissez donc ni la fortune ni la situation de votre cousine Germaine ? Demanda le président.
Oh, si monsieur l'avait connue, il ne la laisserait pas dans une maison qui n'est que l'hôpital honnête, dit sévèrement le juge. Je me souviens maintenant d'avoir vu vendre à Nantes, par expropriation, une maison appartenant à monsieur et madame Lorrain. Et mademoiselle Lorrain a perdu sa créance, car j'étais commissaire de l'ordre.
Le notaire parla du colonel Lorrain, qui, s'il vivait, serait bien étonné de savoir sa fille dans un établissement comme celui de Saint-Jacques. Les Rogrons firent alors leur retraite en se disant que le monde était bien méchant. Sylvie comprit le peu de succès que sa nouvelle avait obtenu. Elle s'était perdue dans l'esprit de chacun. Il était dès lors interdit de frayer avec la haute société de Provins. À compter de ce jour, les Rogrons ne cachèrent plus leur haine contre les grandes familles bourgeoises de Provins et leurs adhérents. Le frère dit alors à la sœur toutes les chansons libérales que le colonel Gouraud et l'avocat Vinet lui avaient servées sur les Tiphaines, les Guénées, les Garcelans, les Guépins et les Julliards.
Dis donc, Sylvie, mais je vois pas pourquoi madame Tiphaine renie le commerce de la rue Saint-Denis, le plus beau de son nez en effet. Madame Roguin, sa mère est la cousine des Guillaume du Chat qui plotte, et qui ont cédé leur fonds à Joseph Lebas, leur gendre.
Son père est ce notaire, ce Roguin, qui a manqué en 1819 et ruiné la maison Birotteau.
Ainsi la fortune de madame Tiphaine est du bien volé, car qu'est-ce qu'une femme de notaire qui tire sur l'épingle du jeu et laisse faire à son mari une banqueroute frauduleuse? C'est du propre. Oh, je vois, elle a marié sa fille à Provins, rapport à ses relations avec le banquier du Tillet. Et ces gens-là font les fiers, mais... Enfin, voilà le monde.
Le jour où Denis de Rogron et sa sœur Sylvie se mirent à déblatérer contre la clique, ils devinrent, sans le savoir, des personnages et furent en voie d'avoir une société. Leur salon allait devenir le centre d'intérêt qui cherchait un théâtre. Ici, l'ex-mercier prit des proportions historiques et politiques. Car il donna, toujours sans le savoir, de la force et de l'unité aux éléments jusqu'alors flottants du Parti libéral à Provins. Voici comment. Les débuts des Rogrons furent curieusement observés par le colonel Gouraud et par l'avocat Vinet, que leur isolement et leurs idées avaient rapprochés. Ces deux hommes professaient le même patriotisme par les mêmes raisons. Ils voulaient devenir des personnages. Mais s'ils étaient disposés à se faire chef, il manquait de soldats. Les libéraux de Provins se composaient d'un vieux soldat devenu limonadier, d'un aubergiste, de M. Cournant, notaire, compétiteur de M. Auffray, du médecin Néraud, l'antagoniste de M. Martener, de quelques gens indépendants, de fermiers épars dans l'arrondissement et d'acquéreurs de biens nationaux. Le colonel et l'avocat, heureux d'attirer à eux un imbécile dont la fortune pouvait aider leurs manœuvres, qui souscrirait à leur souscription, qui dans certains cas attacherait le grelot et dont la maison servirait d'hôtel de ville au parti, profitèrent de l'inimitié des Rougrons contre les aristocrates de la ville. Le colonel, l'avocat et Rogron avaient un léger lien dans leur abonnement commun au constitutionnel,
Il ne devait pas être difficile au colonel Gouraud de se faire un libéral de l'ex-Mercier, quoique Rogron sût si peu de choses en politique qu'il ne connaissait pas les exploits du sergent Mercier. Il le prenait pour un confrère. La prochaine arrivée de Pierrette hâta de faire éclore les pensées cupides inspirées par l'ignorance et par la sottise des deux célibataires. En voyant toute chance d'établissement perdue pour Sylvie dans la société, Tiphaine, le colonel eut une arrière-pensée. Le vieux militaire contemplait tant d'horreurs dans tant de pays, tant de cadavres nus grimaçant sur tant de champs de bataille, qu'il ne s'effraie plus d'aucune physionomie, et Gouraud coucha en joue la fortune de la vieille fille. Ce colonel, gros homme court, portait d'énormes boucles à ses oreilles, cependant déjà garni d'une énorme touffe de poils. Ses favoris épars et grisonnants s'appelaient en 1799 des nageoires. Sa bonne grosse figure rouge-jaune était un peu tannée, comme celle de tous les échappés de la Bérézina. Son gros ventre pointu décrivait en dessous cet angle droit qui caractérise le vieil officier de cavalerie. Gouraud avait commandé le 2e hussard. Ses moustaches grises cachaient une énorme bouche blagueuse, s'il est permis d'employer ce mot soldatesque, le seul qui puisse peindre ce gouffre. Il n'avait pas mangé, mais dévoré. Un coup de sabre avait tronqué son nez. Sa parole y gagnait d'être devenue sourde et profondément nasillarde, comme celle attribuée aux Capucins. Ses petites mains, courtes et larges, étaient bien celles qui font dire aux femmes « Vous avez les mains d'un fameux mauvais sujet. » Ses jambes paraissaient grêles sous son torse. Dans ce gros corps agile s'agitait un esprit délié, la plus complète expérience des choses de la vie, cachée sous l'insouciance apparente des militaires, et un mépris entier des conventions sociales. Le colonel Gouraud avait la croix d'officier de la Légion d'honneur et 2 400 francs de retraite, en tout 1 000 écus de pension pour fortune. L'avocat, long et maigre, avait ses opinions libérales pour tout talent, et pour tout seul revenu, les produits assez minces de son cabinet. La province, les avoués plaident eux-mêmes leur cause. À raison de ses opinions, le tribunal écoutait d'ailleurs peu favorablement Maître Vinet. Aussi les fermiers les plus libéraux, en cas de procès, prenait-il préférablement à l'avocat Vinet un avoué qui avait la confiance du tribunal. Cet homme avait suborné, disait-on, aux environs de Coulommiers, une fille riche et forcé les parents à la lui donner. Sa femme appartenait au Chargebœuf, vieille famille noble de la Brie, dont le nom vient de l'exploit d'un écuyer à l'expédition de Saint-Louis, en Égypte. Elle avait encouru la disgrâce de ses pères et mères, qui s'arrangeaient au su de Vinet, de manière à laisser toute leur fortune à leur fils aîné, sans doute à la charge d'en remettre une partie aux enfants de sa sœur. Ainsi, la première tentative ambitieuse de cet homme avait manqué. Et bientôt, poursuivi par la misère et honteux de ne pouvoir donner à sa femme des dehors convenables, l'avocat avait fait de vains efforts pour entrer dans la carrière du ministère public, mais la branche riche de la famille Chargebœuf refusa de l'appuyer. En Jean Moreau, ces royalistes désapprouvaient un mariage forcé. D'ailleurs, leur prétendu parent s'appelait Vinet. Comment protéger un roturier? L'avocat fut donc éconduit de branche en branche quand il voulut se servir de sa femme
auprès de ses parents. Madame Vinet ne trouva d'intérêt que chez une charge bœuf, pauvre veuve chargée d'une fille et qui toutes deux vivaient à Troyes. Aussi Vinet se souvint-il un jour de l'accueil fait par cette charge bœuf à sa femme. Repoussé par le monde entier, plein de haine contre la famille de sa femme, contre le gouvernement qui lui refusait une place, contre la société de Provins qui ne voulait pas l'admettre, Vinet accepta sa misère. Son fiel s'accrut et lui donna de l'énergie pour résister. Il devint libéral en devinant que sa fortune était liée au triomphe de l'opposition et végéta dans une mauvaise petite maison de la ville haute d'où sa femme sortait peu. Cette jeune fille, promise à de meilleures destinées, était absolument seule dans son ménage avec un enfant. Il est des misères noblement acceptées et gaiement supportées. Mais Vinet, rongé d'ambition, se sentant en faute envers une jeune fille séduite, cachait une sombre rage. Sa conscience s'élargit et admit tous les moyens pour parvenir. Son jeune visage s'altéra. Quelques personnes étaient parfois effrayées au tribunal en voyant sa figure vipérine à tête plate, à bouche fendue, ses yeux éclatants à travers des lunettes. En entendant sa petite voix aigre, persistante et qui attaquait les nerfs, son teint brouillé, plein de teintes maladives, jaunes et vertes par place, annonçaient son ambition rentrée, ses continuels mécomptes et ses misères cachées. Il savait ergoter, parler. Il ne manquait ni de traits ni d'images. Il était instruit, retors. Accoutumé à tout concevoir par son désir de parvenir, il pouvait devenir un homme politique. Un homme qui ne recule devant rien, pourvu que tout soit légal, est bien fort. Et la force de Vinet venait de là. Ce futur athlète des débats parlementaires, un de ceux qui devaient proclamer la royauté de la maison d'Orléans, eut une horrible influence sur le sort de Pierrette. Pour le moment, il voulait se procurer une arme en fondant un journal à Provins. Après avoir étudié de loin le colonel aidant les deux célibataires, l'avocat avait fini par compter sur Rogron. Cette fois, il comptait avec son hôte et sa misère devait cesser après 7 années douloureuses où, plus d'un jour, sans pain, avait crié chez lui. Le jour où Gouraud annonça sur la petite place à Vinet que les Rogron rompaient avec l'aristocratie bourgeoise et ministériel de la ville haute, l'avocat lui pressa le flanc d'un coup de coude significatif. « Une femme ou une autre, belle ou laide, vous êtes bien indifférente, dit-il. Vous devriez épouser Mademoiselle Rogron, et nous pourrions alors organiser quelque chose ici. Ouais, j'y pensais, mais il faut venir la fille du pauvre colonel Lorrain, leur héritière. Dit le colonel. Mais vous vous ferez donner leur fortune par testament. Non, mais vous auriez une maison bien montée. D'ailleurs, cette petite, nous la verrons, dit le colonel d'un air goguenard et profondément scélérat, qui montrait à un homme de la trempe de Vinet combien une petite fille était peu de chose aux yeux de ce soudard.